Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pendant ces quatre semaines de l'Avent, nous vous proposons de découvrir ou d'approfondir ce que disent les prophètes qui accompagnent ce temps de préparation à Noël. À la veille de la Nativité, Isaïe nous accompagne. Isaïe est le grand prophète d'Israël. Que nous fait-il découvrir du visage du Messie? Comment nous guide-t-il pour accueillir l'Emmanuel à Noël? Nous en parlons avec le père Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse. Bonjour père.
Bonjour Isabelle, bonjour chers auditeurs.
Vous êtes aussi responsable de la formation au diaconat permanent. Merci d'être à nouveau avec nous pour cette quatrième émission sur les prophètes. Écoutons pour commencer Isaïe dans le chapitre 9, versets 1 à 6, texte que nous entendrons dans la nuit de Noël, la messe de la nuit. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Voilà des beaux noms, Père Cyprien Comte, pour présenter cet enfant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce chapitre 9, versets 1 à 6?
Nous sommes toujours dans la première partie du livre d'Isaïe, qu'on fait remonter en général, pour la plupart, aux prophètes du 8e siècle, au moins pour l'origine de ces textes. Cet oracle extrêmement poétique, d'abord, nous pouvons parler de sa postérité, c'est-à-dire que nous le connaissons souvent grâce à la liturgie. En effet, il a été adapté pour le chant liturgique, c'est un cantique de l'Ancien Testament, que l'on chante dans la liturgie des heures. Alors peut-être que tous les auditeurs ne sont pas des familiers de la liturgie des heures.
Et
mais
plutôt à quel moment, à quel office? Plutôt les vêpres ou plutôt le...
Alors c'est une bonne question, je ne sais pas.
Il va falloir vérifier.
Est-ce que c'est dans un office des lectures au temps de Noël? Je ne sais plus. Et donc c'est le cantique Ancien Testament numéro 18. Peut-être les auditeurs pourront donner compléter la référence.
Oui. Allez, un petit exercice pratique pour les vacances.
Et puis, effectivement, c'est la première lecture de la nuit de Noël. Quand on entend ce texte, on le comprend, en fait. C'est vraiment un oracle, c'est-à-dire une proclamation prophétique de type messianique, parce qu'elle a trait à un homme qui doit venir, qui a reçu l'onction de l'Esprit-Saint, même si ça n'est pas dit explicitement ici. En tout cas, c'est un descendant royal, sans aucun doute, qui est chargé d'établir la paix, autant d'harmonique avec le mystère de Noël, même si c'est dans de lointaines préfigurations. Je vous rappelle que nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le texte a même été mis en musique, et peut-être que nos éditeurs, notamment les plus anciens, connaissent ce cantique de Lucien Deïs. On chante « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Mais à vrai dire, les passionnés de musique grégorienne reconnaissent aussi une antienne que l'on chante régulièrement à Noël, n'est-ce pas ? Puer natus est nobis. Je pense que dans la musique dite classique, il y a aussi un certain nombre de pièces, dont une qui commence par « Odie, aujourd'hui, Christus natus est ». Aujourd'hui, le Christ est né. Et on pourrait sans doute décliner encore sur toute la gamme les prolongements de ce texte dans les offices de Noël. Alors, quand on lit le texte, on voit un peuple qui marchait dans les ténèbres.
Oui, on a ce contraste, ténèbres et lumière.
Et la lumière qui resplendit, et c'est aussi le signe d'une victoire, une victoire incroyable et d'ailleurs relativement inattendue. Le lecteur du texte bien attentif, repérera sans doute des liens avec d'autres oracles de l'Ancien Testament. Alors, il y a l'histoire de Gédéon, dont on parle dans le livre des Juges, et qui est conduit par le Seigneur à une victoire écrasante sur les armées de Madian. Or, il est question ici du jour de
Madian.
Vous voyez, le jour de la victoire sur Madian, au verset 3, toujours dans Isaïe 9. Et donc, c'est une référence discrète à Gédéon. Il y en a plusieurs autres, en fait, dans ce texte. Mais ce qui nous marque le plus, sans doute, c'est l'annonce de la fin de la guerre. Évidemment, il est question d'une victoire militaire. Rappelons que dans la Méditerranée orientale ancienne, je me suis rendu compte il y a peu de temps, et souvent cela m'arrive en enseignant devant des religieux ou des séminaristes d'Extrême-Orient, que quand on parle du Proche-Orient ancien, c'est un tout petit peu européo-centré, vous voyez.
Ah,
donc
oui,
peut-être
oui.
Que la Méditerranée orientale ancienne serait une appellation plus juste. En tout cas, on a dans cette région du monde, et pas seulement au premier millénaire avant Jésus-Christ, on a l'impression que la guerre n'est pas tout à fait incessante, mais quand même on n'en est pas loin. Au point que, vous vous rappelez l'histoire de David et Bethsabée, quand le roi David est resté à Jérusalem, mais on dit à ce moment-là, au moment où les rois partent en campagne pour la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une saison...
Et il
saison...
envoie le mari de Bethsabée, justement, sur le front. Non, c'est pas ça.
Alors, tout à fait. Parce que, enfin, le mari de Bethsabée est au front, mais il commet l'adultère avec la femme...
Enfin, David.
Qui devient... Ouais. David, pardon. David commet l'adultère avec Bethsabée, la femme de son soldat, Hittite. Et elle devient enceinte. Il essaye de faire endosser la paternité par ce soldat, mais voyant... l'échec, en fait, le renvoie au front avec le porteur de la lettre qui ordonne de le faire mettre à mort, en fait. Donc, c'est assez terrible comme passage, mais je le citais simplement comme une illustration des guerres presque incessantes dans cette région du monde, au moins à l'époque, et malheureusement, l'actualité nous le rappelle trop souvent encore aujourd'hui. Une grande espérance qui se fait jour, c'est le cas de le dire, dans ces oracles, notamment d'Isaïe, c'est celle d'un roi, un enfant mystérieux, dont la naissance annonce la fin des guerres. Évidemment, la victoire, mais c'est aussi la destruction des moyens qui permettent de faire la guerre. Vous voyez les versets du
brûlées,
texte.
Hein. Les manteaux qui sont brûlés aussi,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est impressionnant. Et puis, puis tout ce qui rappelle l'oppression aussi. Vous voyez, le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, d'une part. Et puis ensuite, verset 4, les chaussures des soldats, les manteaux couverts de sang. Alors, ce n'est pas dans ce passage qu'on parle des lances qui deviennent des socs et des épées qui sont utilisées aussi pour l'agriculture, mais c'est dans le même Isaïe. Et on sent bien que ce motif est très présent dans les oracles qu'il annonce et les prophéties qu'il donne de la naissance du Messie. On peut dire aussi, et j'arrête là, hein, si vous voulez, pour les références à d'autres textes bibliques, que ce passage d'Isaïe fait référence aux oracles de l'Emmanuel. Alors, ça nous dit quelque chose. On en a parlé il y a deux semaines.
Avec
en
le
lisant,
livre de l'Emmanuel.
Voilà, le livre de l'Emmanuel. On y est encore, d'ailleurs. Hein. Mais c'était notamment l'oracle d'Isaïe 7 et Isaïe 7, 14. L'enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel. Or, ici... Alors, je me réfère ici à un article que j'ai fait et dans un livre qui doit paraître ces jours-ci, « Prêtre, prophète et roi ». Dans l'Église, les actes d'un colloque de l'Institut catholique du début de l'année 2024. Et en fait, on intitule souvent ce passage avec le père Yvan Maréchal de Paris, « L'espérance de la délivrance ». En fait, le père Maréchal, qui a beaucoup travaillé sur Isaïe, donc j'invite les auditeurs qui le souhaitent à se reporter à ses travaux, il y a une petite introduction qui s'appelle « Le livre d'Isaïe », et il y a un commentaire suivi, mais très accessible, qui s'appelle également « Le livre d'Isaïe ». Donc si jamais vous achetez un livre du père Yvan Maréchal, regardez bien lequel c'est, puisque les deux ont le même titre. Voilà, c'est pas très gênant, ils se ressemblent pas vraiment. Hein, voilà. Mais les deux sont en français et disponibles dans les bonnes librairies. Et pour lui, et je crois qu'il est, il synthétise ici la tradition exégétique, hein, de lecture de Isaïe chapitre 9, nous avons ici une relecture indéniable de l'oracle de l'Emmanuel. Vous voyez, Isaïe 7, 14, comme on le disait. C'est-à-dire qu'avec une vision, il est vrai, un petit peu différente, il est cependant question ici du descendant de David, idéal,
oui.
C'est-à-dire le roi
qui met fin
idyllique. À toute voilà, c'est comment dire, il y a, vous voyez, d'une part, le salut, la lumière et la joie donnés par Dieu. Trois motifs de la joie. Fin de l'oppression, fin de la guerre, naissance d'un enfant. Et puis aussi, et c'est assez, assez remarquable, et on termine par là, hein, avec un enfant nous est né, nous avons ces titres messianiques, un pouvoir et des titres exceptionnels qui bénéficieront non pas seulement, comme on le trouve parfois dans les annonces de naissance autrefois, à ses proches, mais un enfant dont le pouvoir et les titres bénéficieront à tout le royaume de David. Je relis les titres, hein, si vous voulez, même si ils ne sont pas très très faciles à traduire.
Et ce sera bien de les expliquer, parce que alors, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, d'où viennent ces noms et comment peut-on les entendre concernant le Christ ?
Ma foi, c'est difficile de tout dire en quelques instants, mais on peut quand même en donner un petit aperçu. Vous voyez, merveilleux conseiller, c'est plutôt quelqu'un qui fait des plans merveilleux. En fait, le conseil dans la Bible, qui est d'ailleurs l'un des dons, nous nous en souvenons du Saint-Esprit, mm-hmm. On a lu cela dans Isaïe 11, mm-hmm. n'est-ce pas ? En fait, c'est quelqu'un, c'est un souverain qui est capable d'opérer des merveilles. Donc, on a traduit quelquefois, c'est un petit peu étonnant comme traduction, mais c'est très littéral, planificateur de merveilles. Le deuxième titre, c'est Dieu vaillant. Quelquefois, on traduit par Dieu héros. Bon, le mot qui accompagne le nom El, le nom de Dieu, c'est plutôt un adjectif, mais quelquefois, on le traduit par le substantif héros. On trouve souvent, à vrai dire, dans l'Orient ancien, pardon, dans la Méditerranée orientale ancienne, on trouve souvent ce type de formulation pour désigner les souverains. Par exemple, l'inscription de Tel Ferrerie contient les mots Hadad, le héros.
Ah oui.
Et donc on a ici El, le héros, ou El, le vaillant, et on traduit par Dieu fort. Alors j'ai choisi d'insister un tout petit peu sur ce point, peut-être parce qu'aujourd'hui, la mentalité religieuse, on a beaucoup dit, et à juste titre, que le Dieu des chrétiens se révélait dans la faiblesse. Mmh. Il ne faut pas oublier que si nous mettons notre foi en lui, c'est parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est capable de nous délivrer. Et ça n'enlève rien à sa manière de vivre l'amour en s'abaissant.
Oui, c'est
et
ça.
Nous le voyons en Jésus.
Dans son incarnation.
Voilà, dans son incarnation, puis dans la passion. Et même, et c'est souvent scandaleux, en fait, et ça a bouleversé un certain nombre de personnes qui voulaient faire de la théologie, notamment au XXe siècle, mais pas seulement, avec toutes les catastrophes que nous avons pu vivre dans les siècles passés. On dit quelquefois, comment faire de la théologie après Auschwitz, vous voyez,
oui.
Comment est-ce que Dieu
qui est
silencieux,
soi-disant, si possible, soit silencieux. Oui.
Et c'est évidemment le cri des malades et de ceux qui les accompagnent. Voilà. Donc, nous n'allons pas résoudre
mystère
cette question maintenant,
ouais.
Mais bien sûr. Et pourtant, Dieu est bien Dieu vaillant. C'est Dieu fort, on l'appelle quelquefois. Vous voyez donc, et ce substantif d'ailleurs désigne d'abord hein, des êtres vivants. D'ailleurs, on trouvera El, donc ici c'est El Gibbor qui est traduit par Dieu fort. On a trois fois dans les passages qui nous intéressent, Isaïe 7 et 8, vous voyez, pas loin du chapitre 9 où nous sommes, on a trois fois le nom de Emmanuel. C'est-à-dire, c'est ce Dieu-là qui est avec nous, le Dieu fort. Mmh. Alors, un mot peut-être sur Père toujours. Alors, quelquefois,
Père
on traduit
jamais.
Père à jamais, mmh. Père toujours, Père éternel, Avirad en hébreu. On a souvent aussi cela dans les inscriptions anciennes des pays alentours. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de vestiges archéologiques concernant l'histoire d'Israël et de Juda, parce que finalement, ce n'étaient pas des royaumes extrêmement puissants, semble-t-il. Or, c'est souvent dans l'opulence que les plus aisés, et notamment les souverains, arrivent à laisser des monuments qui passent les siècles, oui. fussent à l'état de ruines. Ceci dit, on a donc ce titre, souvent appliqué au monarque, qui rappelle les monts éternels dont parle le prophète Habacuc. Les rois de l'Ancien Orient se voient sans cesse promettre une vie éternelle. Et pour la Bible, pour ce que nous connaissons davantage, la Bible hébraïque reprend ce motif, en particulier dans un psaume royal, un psaume messianique, c'est le psaume 72 ou 71 dans la liturgie, et on trouve au psaume 72, donc versets 5 et 17, ce même motif d'un roi qui vivra et qui régnera pour l'éternité. Et donc, il faut traduire ici, visiblement, Père d'éternité.
Eh oui.
Vous voyez, on a Père à jamais, Père d'éternité. Et puis, bien sûr.
De toujours à toujours.
Pardon.
Oui, de toujours à toujours.
Père de toujours à toujours. Voilà, c'est aussi l'éternité de Dieu qui est manifestée ici d'une manière inattendue, vous voyez, dans l'annonce de la naissance d'un enfant. Vous voyez, ce petit bout d'homme qui, en fait, sera appelé. Peut-être d'ailleurs y a-t-il une hésitation possible dans le texte hébreu. Il s'appellera comme s'il s'appelait lui-même, comme si c'était lui-même qui se donnait ses noms. Le texte n'est pas très très clair et les différentes versions du texte permettent aux exégètes de faire un certain nombre d'hypothèses. Voilà. Est-ce que c'est en fait comme une espèce de récit qui mêle à la fois la naissance et le couronnement?
Oui,
de cet être mystérieux, puisque justement, les rois pouvaient recevoir un nom nouveau, n'est-ce pas ? On a même dit d'ailleurs que dans l'Égypte ancienne, si j'ai bon souvenir, les pharaons recevaient 5 noms au moment où ils accédaient au pouvoir, hein, sauf erreur. Donc là, on en a quatre.
Oui.
C'est quand même assez impressionnant. Le dernier, le quatrième, c'est Prince de la paix. C'est peut-être le plus familier et le plus facile à traduire et à expliquer. D'ailleurs, on a parlé de Gédéon tout à l'heure. C'est intéressant de dire qu'il avait appelé un autel qu'il a bâti à Ophra, le Seigneur est paix. Donc encore une réminiscence, vous voyez, de l'histoire de Gédéon, de manière très discrète, mais pour le lecteur averti, on a ces annonces de naissance mystérieuses qui font référence, encore une fois, hein, à l'Emmanuel promis en Isaïe 7, et puis aussi à Gédéon, par exemple, au chapitre 6, on a cette référence. Vous voyez, on pourrait dire encore mille choses, je crois, sur cet oracle, mais il faut le laisser résonner, je pense, dans la nuit de Noël. Et puis cette annonce d'une paix et de la gloire du Seigneur, du pouvoir sans fin pour David et pour son royaume, nous parle à nous, chrétiens, évidemment, du Christ qui est le roi de l'univers et un roi qui exerce son pouvoir dans le droit et la justice. On a tellement d'exemples de gouvernants, loin sans doute et parfois plus près de chez nous, hein, qui sont des oppresseurs sanguinaires et qui ne semblent pas être soucieux d'abord du bien des autres, pardon pour les euphémismes, qu'il est bon de nous rappeler ces promesses bibliques d'un souverain qui n'est peut-être pas seulement humain, on le comprend déjà en lisant cette annonce prophétique.
Oui, oui. Je vous propose que nous marquions une petite pause musicale. Nous écoutons Père Cyprien Comte, la cantate BWV 248, toujours de Jean-Sébastien Bach, tirée de l'oratorio de Noël. Alors, je vais le dire avec mon accent allemand des années 80. Rauzet, frohlocket, auf breitzet, die Tage, exultez, réjouissez-vous debout, louez ce jour. Interprété par l'alto Elvira Bill avec l'orchestre de la Fondation Bach dirigé par Rudolf Lutz.
Thank you.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Isaïe est le grand prophète d'Israël. Que nous dit-il du Messie à cette veille, avant-veille de Noël? Nous sommes avec le père Cyprien Comte, enseignant les prophètes bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Pour commencer cette deuxième partie, nous allons lire le chapitre 2 du livre d'Isaïe, les versets 1 à 5. Parole d'Isaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » On retrouve ici, Père Cyprien Comte, ce que vous disiez tout à l'heure quand nous avons lu le chapitre 9, versets 1 à 6, de ces lances qui deviennent des faucilles et de ces épées qui forgent des socs de charrue.
C'est un oracle qu'affectionne toutes les personnes qui aiment la paix.
Ah.
Parce qu'en effet, transformer les armes de guerre en outils pour l'agriculture, c'est le signe qu'en effet, on n'est plus dans l'urgence de préserver sa vie face à un agresseur, ou peut-être de porter le fer dans son pays, mais que l'on peut se consacrer à des activités à plus long terme. En effet, labourer, moissonner, signifie qu'on a le temps de semer, d'entretenir, de voir pousser.
On voit loin.
Et puis, c'est ça, il faut... Et encore, dans d'autres passages, je crois que ce n'est pas le cas ici, si j'ai bien écouté, dans d'autres passages, on parle des vignes. Et dans certains passages, on vous dit, ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Et on sait qu'il faut au moins 3 ou 4 ans, n'est-ce pas, pour qu'une vigne puisse porter du fruit.
Oui, donc là, c'est une espérance d'une continuité de la paix. Ouais.
Et en effet, dans des cultures qui sont sujettes aux conflits incessants et dans des pays où on ne sait pas trop ce que sera le lendemain, mais que parfois, à quelques mois près, on sait que les armées étrangères vont refaire leur apparition. Encore une fois, c'est malheureusement la triste actualité du Proche-Orient actuel, ce qu'on appelle le Levant. Hein. Donc, c'est vraiment un oracle d'une force exceptionnelle. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas quand on reprend. Alors, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps un disque fait par des amis musiciens arabes, chrétiens et juifs en Israël qui chantent sur ce texte-là.
Ah oui.
En hébreu, ils reprennent le texte d'Isaïe et c'est très émouvant de les entendre. Alors peut-être nos auditeurs qui sont allés à New York ou qui y habitent ont-ils déjà vu à l'entrée du siège de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en lettres lumineuses, ces mots « On n'apprendra plus la guerre ». On n'apprendra plus la guerre. Je n'ai pas la traduction anglaise, je suppose que c'est en anglais à New York. C'est l'horizon visé par l'humanité, vous voyez, et inscrire ces mots en lettres lumineuses, l'oracle hébreu ancien. Alors j'ai encore les mots chantés par ses amis sur ce disque, hein. Lo yilmedu milchama. Ils n'apprendront plus la guerre. Alors quand on sait ce que c'est que de vivre dans un pays en guerre, encore une fois, Israël, la Palestine et tout l'Orient, vu d'ici en tout cas, peuvent reprendre ces mots avec une espérance folle. Peut-être qu'il faut avoir connu la guerre pour goûter complètement cette annonce et ce qu'elle recèle de bouleversant. Et il est tellement beau pour nous, à la veille de Noël, de nous rendre compte que, en fait, c'est ça aussi, et c'est ça d'abord, le message des prophètes. Voilà, demain, le Christ naît de la Vierge Marie à Bethléem, c'est cet anniversaire extraordinaire, et nous avons parlé la semaine dernière du prophète Michée et de Bethléem, mais en fait, voilà, il s'agit vraiment de cela, cet enfant qui va apporter la paix. Vous savez, je connais...
Prince de la paix, on revient.
Oui, c'est vraiment, c'est ça. J'ai vécu parmi les chrétiens palestiniens. L'actualité nous parle beaucoup des difficultés des Israéliens. On pense aussi très fort à Gaza. Nous prions avec les peuples du Liban, de la Syrie, et on espère que le conflit ne va pas s'étendre encore davantage. Mais vraiment, l'aspiration à la paix est une soif irrépressible. Et les anciens prophètes nous annoncent celui qui seul peut la donner. Voilà, on se rappelle que Jésus, dans l'Évangile, et ceux qui pratiquent la liturgie eucharistique l'entendent chaque jour. Jésus dit à ses disciples, au moment de passer vers le Père, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, mais c'est lui qui est notre paix. »
C'est le Christ qui est notre paix. Autre enseignement, si je puis dire, d'Isaïe, c'est cette invitation « Venez, montons à la montagne du Seigneur qui nous enseigne ses chemins ». Est-ce que ce n'est pas une invitation à être plus attentif à la parole de Dieu, à la laisser retentir, ruminer en chacun de nous ?
Comment Isaïe a-t-il reçu cette annonce ? Alors, c'est une parole, mais c'est une parole qu'il a vu. En fait, ce n'est pas dans la traduction liturgique, mais le texte hébreu dit « la parole qu'a vu le prophète Isaïe ». Vous voyez, Isaïe 2, 1.
Comme si elle était écrite sur le ciel, en fait.
Oui, et puis on se rappelle aussi comment il a été appelé en voyant le Seigneur assis sur son trône dans le temple. Donc Isaïe est un homme qui voit, comme d'ailleurs les prophètes anciens le sont souvent. Mais vous avez raison de demander quelle est la place de la parole, parce qu'il y insiste aussi. On met pas, vous voyez, il ne s'agit pas de mettre en opposition la parole et la vision, parce que le Seigneur se donne à ses messagers de la façon qui lui convient, et à chacun de nous, et nous sommes aussi ses prophètes, n'est-ce pas ? En fait, si Isaïe insiste sur la parole du Seigneur, à la fin du verset 3, vous voyez, c'est aussi parce que il réside en Sion, à Jérusalem, d'où doit venir l'instruction, qu'on appelle en hébreu la Torah, on traduit dans nos Bibles souvent la loi, vous l'avez entendu, n'est-ce pas ? Mm-hmm. De ces deux Sion que vient la loi, de Jérusalem, la parole du Seigneur. Et donc, ces mots du Seigneur, ce davar, comme on dit en hébreu, la parole, est vraiment une dimension fondamentale de la révélation chrétienne. Les catholiques se souviennent, et beaucoup d'autres avec eux, que le Concile Vatican II, et il n'a pas innové en cela, a mis en évidence la parole de Dieu. Une des grandes constitutions dogmatiques, un grand texte du Concile Vatican II, porte sur la parole de Dieu, Dei Verbum. Et les papes n'ont eu de cesse de reprendre, avec des mots plus ou moins identiques, cette annonce tellement importante. Alors pour nous les catholiques, ça n'est peut-être pas si évident, nous devons sans cesse nous rappeler que nous sommes sous la parole du Seigneur. En fait, il n'y a pas d'autorité plus grande que celle de la parole du Seigneur. Et encore une fois, je me répète, mais c'est une bonne chose parfois, l'évangile selon saint Jean va jusqu'à dire le Verbe, la parole, s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et nous disons cela, n'est-ce pas, dans un des credos, le Verbe s'est fait chair et on y reconnaît le Christ Jésus qui est la parole éternelle du Père. Dans l'Épître aux Hébreux aussi, hein, on trouve cela très fort.
Et c'est aussi le prologue de saint Jean qui est lu le matin de Noël,
oui,
si je ne me trompe pas.
Oui, exactement, à l'Évangile pour la messe du jour de
voilà.
Noël, si je ne me trompe pas.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Parce qu'il y a quatre messes hein, pour Noël.
Et oui, il y a
la messe la veille au soir, la nuit de Noël, et donc nous avons lu Isaïe 9, la première lecture de la nuit de Noël. Il y a la messe de l'aurore. De plus en plus dans nos paroisses est proposée une messe de l'aurore et j'ai vu dans la banlieue toulousaine une fois ou l'autre des foules assez nombreuses pour la messe de 8h du matin le jour de Noël, alors que certains ont eu une nuit festive.
Un peu courte, oui.
Voilà.
Oui.
Et la messe du jour.
Vous vouliez faire un lien avec les cantiques du serviteur qui sont dans la deuxième partie du livre d'Isaïe.
C'est vrai que c'est un petit peu dommage d'évoquer en cette fin du temps d'Avent le livre d'Isaïe et de passer sous silence ces quatre cantiques. Alors le plus connu, c'est le quatrième qu'on lit plutôt la semaine sainte, dans Isaïe 52, à la fin du chapitre 52, et puis tout le chapitre 53, qui nous montre en fait ce serviteur dont Dieu parle à la première personne en disant
«
mon serviteur réussira, il sera exalté ». Et puis ensuite, il y a le témoignage de cet homme mystérieux, qu'il est difficile de ne pas rapprocher dans une lecture chrétienne où on rapproche les textes du livre d'Isaïe les uns des autres et aussi du mystère de l'Évangile. Il est difficile de ne pas voir comment ce rejeton qui est misérable, méprisé et qui souffrira, qui va être mis à mort, on comprend qu'il s'agit d'une personne, pas d'une plante, bien sûr. Les gens sont silencieux devant lui, ce serviteur muet et souffrant, mais il sera glorifié, il verra la lumière, dit la fin du texte, Isaïe 53. Donc je trouve que parmi les cantiques du serviteur, c'est bien de mentionner celui-là, et aussi un autre qui est, entre guillemets, rattaché au cantique du serviteur, et qui est tout à la fin du livre d'Isaïe, en Isaïe 61, où on lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Et le lecteur de l'Évangile reconnaît aisément le texte que Jésus lit et commente brièvement à la synagogue de Nazareth dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4. Et donc, vous voyez, le livre d'Isaïe n'est pas seulement une longue prophétie du Messie, mais il est aussi cela, et c'est pourquoi il est devenu dans la tradition chrétienne une sorte de cinquième évangile. Voyez. Et c'est pourquoi pendant le temps de l'Avent, nous lisons tellement souvent le livre du prophète Isaïe, qui éclaire, comme de manière lointaine et encore dans l'ombre, le mystère qui va venir illuminer tout homme. Je reviens au prologue de saint Jean, vous voyez, le Verbe était la vraie lumière qui, en venant en ce monde, illumine tout homme, ou qui illumine tout homme venant en ce monde. Et c'est impressionnant de voir que les préfigurations de l'Ancien Testament sont comme l'ombre portée par la grande lumière de l'Évangile. Il est beau que nous célébrions la naissance de Jésus lors de cette ancienne fête païenne, où en fait c'est le soleil invaincu. Vous savez, on est à la fin de l'hiver, et c'est le moment où le soleil commence à reprendre le pas, parce que les jours à nouveau se rallongent. Et donc, évidemment, on ne sait pas si Jésus est né un 24 ou 25 décembre. En fait, c'est assez peu probable, finalement. Mais c'est tout à fait remarquable de le fêter à ce moment-là. Et ça nous fait penser à tout ce mouvement de l'Ancien Testament, comme si l'Ancien Testament allait jusqu'au 24 décembre et que le 25, on était dans le Nouveau, si vous voulez.
Oui, c'est ça. Et puis, alors, il ne faut pas perdre de vue aussi cette fête de l'Épiphanie qui arrive après Noël. Et là, elle est mentionnée, si on peut dire, dans le chapitre 60 du livre d'Isaïe, versets 1 à 6.
C'est vrai, hein, puisque nous avons parlé pendant ce temps de l'Avent un petit peu plus du livre d'Isaïe, il est bon de jeter un œil déjà vers cette fête qui n'est pas loin de nous, et où on lira « Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. » Alors les auditeurs ont peut-être en tête une mise en musique.
Ah oui, mais celle-là, oui.
On peut pas passer à côté. Qu'il est difficile d'éviter, et que peut-être on a déjà chanté pendant l'Avent, mais il est assez probable qu'on l'entendra à nouveau dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de maisons chrétiennes, « Debout, resplendis, car voici ta lumière. » Et évidemment, ce texte parle de Jérusalem, de Sion, même si quand on lit avec un peu d'attention Isaïe chapitre 60 et le parallèle dans le livre de Baruch, on se rend compte qu'en fait, Jérusalem n'est pas tout à fait nommé dans un refrain. À vrai dire, ça c'est pour les auditeurs qui s'intéressent aux détails, c'est seulement dans ce chapitre 60 d'Isaïe, hein, au verset 14, qu'il est précisé de quelle ville il s'agit. Impressionnant, hein, voyez, on ne se dit pas cela quand on chante « Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ». Ils t'appelleront, Isaïe 60, verset 14, ils t'appelleront ville du Seigneur, Sion du Saint d'Israël. Voilà un texte qui nous montre que nous sommes entrés dans le temps de la lumière et nous avons parcouru en quelque sorte l'histoire du royaume de Juda avec le prophète Isaïe qui annonçait la fin des ténèbres. Désormais, dans la fin de ce livre, je vous rappelle, chers auditeurs, hein, que nous sommes en train de voir les exilés revenir. Et on trouve cela dans ce texte même. Et c'est une grande lumière qui envahit non seulement Jérusalem, mais qui va attirer à elle les nations du monde entier. Pensez donc aux troupeaux de chameaux couverts de cadeaux qui vont affluer vers Jérusalem dans cette vision eschatologique de vous voyez, tous les peuples vont converger vers la cité du Dieu vivant. C'est vraiment une belle façon d'ouvrir les fêtes de Noël que d'évoquer déjà ce passage, comment dire autrement, lumineux.
Oui, c'est ça. Et en fait, ça montre bien que tout est lié et qu'on ne peut pas s'arrêter seulement à Noël.
C'est ça, la lumière qui vient du Seigneur et qui s'annonçait maintenant. Illumine depuis Bethléem, depuis Jérusalem, tous les peuples de la terre. Et en fait, c'est un chemin, effectivement. Et les mages, d'ailleurs, repartiront dans leur pays. Et la tradition dit qu'ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Et nous avons on dit cela, n'est-ce pas, les jeunes étaient en 2005 à Cologne, entre autres pour vénérer les reliques des rois mages.
C'est vrai.
Vous voyez, comme souvent, quand on a rencontré le Christ, on a la vie illuminé, et rien ne peut plus être comme avant.
Et les mages rentrent par un autre chemin. Merci beaucoup, Père Cyprien Comte. Nous vous souhaitons à tous les auditeurs de Radio Présence un joyeux Noël.
Merci, bon Noël. Au revoir Isabelle, au revoir chers auditeurs.